Le thème, c'est « va plus loin ». Va plus loin, c'est-à-dire, l'idée, c'est de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, là où tu en es, ça te suffit ? Est-ce que là où tu en es, c'est là où tu voulais être ? On est des chrétiens, donc on est des petits Christs, on est en devenir, on est en train de se convertir. On n'est pas converti à 100%. Il y a un moment donné où on a dit, c'est bon, je ne vais plus dans cette direction, je vais dans la direction de Jésus. Mais on a tellement de défauts, tellement de choses qui sont là et qu'on a besoin de travailler, dont on a besoin d'affiner. Et donc, petit à petit, on devient comme lui. Petit à petit, on devient comme lui. Et c'est vraiment ça dont je voudrais vous parler. C'est là où tu en es aujourd'hui, dans quelle position est-ce que tu es ? Pose-toi la question. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que j'en suis à l'état d'un petit bébé spirituel ? C'est pas un péché. Au contraire, il y a un début à tout. Il y a un moment où on donne sa vie à Dieu et on est un bébé spirituel parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on nous donne, on le prend. Jusqu'à exploser. Non, c'est pas vrai. Et puis après, on grandit. Et on devient un jeune adulte. Et puis après, on devient un adulte mature. Et puis après, plus tard, on deviendra comme lui, mais quand on sera là-haut, on n'est pas obligé d'ater le truc. Attendons qu'il revienne, ça suffit. Et donc, je voudrais déjà vous reparler de ça, déjà, les différentes étapes. En tout cas, il y a un début, il y a un présent, là où tu en es aujourd'hui, et il n'y a pas de fin. C'est ça qui est bien dans cette histoire, c'est qu'il y a un début, un milieu, mais il n'y a pas de fin. Si tu as choisi Jésus, c'est pour l'éternité. Amen. Amen. Donc là, vous avez un tout petit bébé avec son gros biberon. Donc peut-être que tu en es là. Peut-être que ça ne fait pas longtemps que tu as donné ta vie à Jésus, mais je n'ai pas l'impression ici présentement. Mais peut-être que tu es dans cet état-là. Et ça, c'est ce que nous sommes au tout début. On dépend fortement à ce moment-là d'autres personnes. Le pasteur, les plus anciens de l'Église, ceux en tout cas qui nous apprennent des choses. On a faim, on a soif, on a envie d'apprendre. Et à ce moment-là, nous savons en quoi nous croyons. Nous croyons en Jésus, nous croyons au fait qu'il nous a sauvés, nous croyons qu'il est notre Seigneur. Et à ce moment-là, on prend. On se nourrit et alors, le problème, c'est que si les personnes qui nous entourent ne sont pas forcément bien nourries, elles également, on peut prendre des choses qui sont tordues, des fois, dans notre façon de voir les choses, dans notre théologie. Donc ça, c'est le petit bébé qui grandit. Il devient un garçon et une fille. Alors désolé, j'ai galéré pour trouver les filles qui courent. Alors j'ai trouvé un garçon qui court. Non, il me fallait une ombre, c'est pour ça, une silhouette. Et puis on devient un jeune adulte. Et le jeune adulte, il aime bien se poser des questions. Il aime bien savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que depuis tant d'années, vous faites ça dans votre église ? Pourquoi, pasteur, vous dites ça à ce moment-là ? J'ai pas compris. Moi, je croyais que la Bible, elle disait ça. Et souvent, c'est les personnes qui, si tu le prends mal, peuvent te mettre dans un état de stress augmenté, parce qu'elles te posent des questions auxquelles tu n'as pas forcément toutes les réponses. Mais c'est important de se poser des questions. C'est important de savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on dit ça, pourquoi la Bible parle de ça. Et ce n'est pas simplement pourquoi est-ce qu'on doit lire la parole. Pourquoi est-ce que la parole c'est la parole de Dieu ? Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu ? Et toi, la seule réponse que tu as, c'est ben oui, la Bible le dit. Ok, mais la Bible le dit, elle dit quoi ? Regarde ta Bible, elle le dit. Et là, vous allez faire des frustrés. Là. Et ce jeune adulte-là, il aime se poser des questions, il aime étudier, quand on est un bébé spirituel aussi, on se forme. Hein. Mais lui, il a envie de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que j'en suis là ? Pourquoi est-ce que Dieu m'a touché de telle façon ? Pourquoi est-ce que la parole d'ici dit ça ? Et ceux qui ne sont pas passés par cette étape restent malheureusement des bébés spirituels. C'est pour ça qu'on peut expliquer des fois des personnes où on a l'impression qu'ils sont infantilisés, des enfants en tout cas, toute leur vie spirituelle. On a l'impression qu'ils sont toujours là à être, à avoir besoin d'aide, à être derrière quelqu'un, à avoir besoin d'avoir une personne sur qui s'appuyer, à qui on ne peut pas la lâcher. Ou alors qui vont naturellement vers tous les grands orateurs qui sont dans le coin et qui courent après comme ça, après les gens. Parce qu'ils ont besoin d'être nourris. Ils ont besoin d'être nourris. Ok, mais c'est bien d'être nourri. C'est hyper important. Ce n'est pas un péché en soi. Après, c'est qu'est-ce que tu en fais de cette nourriture ? En tout cas, c'est important qu'à ce moment-là, on ne décourage pas le pourquoi. Parce que ça peut arrêter la croissance spirituelle de la personne. Ça peut la stopper à un niveau où elle dit « Ok, j'ai plein de questions dans ma tête et personne ne veut y répondre. » Alors, soit elle est très positive et elle dit « Dans ce cas-là, c'est moi qui vais prendre les choses en main et je vais fouiller, je vais trépiller, etc. » Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Et malheureusement, on se trouve bien souvent avec des personnes qui reste au niveau de bébé, à l'état de bébé spirituel. En tout cas, c'est très important et c'est sain cette façon de se poser la question. Parce que Jésus l'appelle à avoir faim de soif et de justice. Avoir faim et soif de savoir pourquoi. Pourquoi, Seigneur, je fais ci? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que c'est juste ce que l'on fait à l'Église? Nous, ici, on avait un Jason. Jason, pour ceux qui le connaissent, Jason et Emma, ils étaient à l'église ici. Ils nous ont quittés. Maintenant, ils sont à une église de Saint-Sébastien. Ils habitent au sud, vraiment au sud de Nantes, quelque part par là-bas, à côté de Clisson. Et Jason, c'était la personne qui, je savais, à chaque réunion de groupe de maison, il avait toujours des questions. Et en fait, il aimait bien poser la question qui va titiller. La question où il sait qu'on n'aura pas forcément la réponse, parce que lui, des fois, il l'avait déjà. Mais il aimait bien, pour voir comment on voyait les choses. Comment ? Alors, des fois, on n'était pas forcément... Enfin, moi, je parle pour moi. Hein. Des fois, j'étais pas forcément à l'aise, parce que je me disais, ouais, bonne question. Est-ce que je la suis déjà posée ? Et finalement, j'aimais bien quand il faisait ça. Après, il y avait toujours un moment où je disais, oh là là, c'était dur quand même la réunion ce soir avec ces questions. Mais en même temps, derrière, tu te dis, mais c'est vrai, en fait, ça me permet, moi, de me poser la question. Pourquoi est-ce que dans la Bible, il est dit ça, et pourquoi est-ce que moi, je fais cette chose tous les dimanches, ou toutes les semaines, ou tous les jours? Et je le fais des fois tellement de manière mécanique, parce que je l'ai appris comme ça, parce que mes parents le faisaient comme ça, parce que mon pasteur faisait comme ça. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon déjà de le faire tous les jours? Est-ce que... je sais pas. Chasser les démons à chaque fois que quelqu'un n'est pas bien, est-ce que c'est bon? Bah non! Et il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on doit se poser des questions. Alors, attention, hein, l'idée, c'est pas de vous mettre... vous sortez d'ici avec « Oh là là, je vais remettre toute ma vie en question. Je ne me suis pas assez posé de questions. » Non, c'est pas ça. Là, on se pose la question d'où est-ce que tu en es. Dans quelle étape de ta vie spirituelle tu en es. En tout cas, ça, c'est c'est cette partie-là dont je vais parler le plus. Hein, je vous fais... je spoil. C'est cette partie-là dont on va parler en plus. Mais je continue quand même. Au cours de cette période, c'est là où les valeurs et les croyances sont purifiées par le feu du Saint-Esprit. C'est là où on apprend à ne plus les apprendre ou à les... On apprend plus à vivre nos vies à partir du texte lui-même. On n'apprend plus le texte lui-même, on apprend à vivre le texte. On apprend à vivre la parole de Dieu. C'est à partir de ce moment-là où on commence à vivre des choses, réellement. Nous savons ce que nous chantons, mais plus important, nous savons pourquoi nous le chantons. Pourquoi est-ce que je chante tel ou tel chant et telle parole ? Nous savons pourquoi la Bible est la parole inspirée de Dieu et ainsi de suite. C'est une période où les questions du pourquoi peuvent amener à être critiques. Et ça, j'en parlerai après. Mais c'est dans cette période-là aussi où on peut, à force de dire ben, « Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça ?» on peut changer la façon de poser la question en disant « Mais tu fais ça, pour moi, c'est pas bon. Il fait ci, la personne occulte ce matin, elle était comme ça, j'ai pas apprécié, etc. » Et c'est attention entre la phase du pourquoi, qui est juste, qui est bonne, et la phase qui devient critique, où là, on remet tout en question. Et cette phase critique, elle peut être intéressante si c'est une phase constructive aussi. Si tu es constructif dans tes critiques, pas de problème. Si tu dis ça, ça ne va pas, mais peut-être que vous pourriez faire comme ça, ou j'ai lu dans la parole que c'était comme ça que c'était écrit. Là, c'est intéressant. Si c'est juste critiquer pour critiquer, parce que ça soulève en toi des questions auxquelles tu n'as pas les réponses, dans ce cas-là, il faut mieux se taire. Mais j'en parlerai plus après. Et puis après, il y a l'adulte mature. Alors lui, l'adulte mature, là j'ai trouvé une femme, c'est bon, à partir de là, on est deux. L'adulte mature, il marche et des fois, il court. Et des fois, il marche. Et des fois, il court. Et des fois, il se repose. Et puis, des fois, il remarche. Et puis, des fois, il recourt. Et puis, des fois, il se repose. Et puis, il se repose encore un peu plus. Mais en tout cas, il est un peu plus en action. Il avance. Et il avance vers qui ? Pour être comme qui ? Pour être comme Jésus. Alors, désolé, mais une bonne nouvelle plutôt, mais vous n'aurez pas besoin de porter la barbe. Pour être comme Jésus, hein, on a bien compris, hein, c'est pas physique, c'est spirituel. Enfin voilà, j'ai passé les trois quarts de ma hier à faire ça au lieu du message, donc j'ai tout donné là-dessus. Hein. Maintenant, j'aimerais continuer sur la partie où je vais continuer. Je vais m'appuyer sur trois versets, je vais vous les donner tout de suite, et puis ensuite, on y reviendra petit à petit. Le premier verset, enfin les premiers versets, c'est dans 2 Timothée 2, versets 1 à 7. « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui est nôtre, dans la communion avec Jésus-Christ. Tu as suivi mon enseignement, il t'a été confirmé par les attestations de nombreux témoins. Ce que tu as ainsi appris, transmets-le à des hommes fidèles et dignes de confiance qui soient capables, à leur tour, d'en instruire d'autres. Sache endurer la fatigue. Ne recule pas devant la peine. Tel un vrai soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part des souffrances. Quiconque embrasse le métier des armes renonce à son gagne-pain ordinaire pour être entièrement à la disposition de son supérieur. Il refuse de se laisser entraîner dans des préoccupations bourgeoises pour pouvoir donner pleine satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé. Aucun soldat partant en campagne ne s'embarrasse des affaires de la vie civile, s'il veut plaire au chef qu'il a pris à son service. De même, il ne suffit pas de participer à une compétition sportive pour être vainqueur. Jamais on n'a vu un athlète gagner la course sans avoir respecté toutes les règles du jeu. Le cultivateur, de même, doit commencer à travailler dur s'il veut récolter, mais d'autre part, c'est à lui qui a peiné de jouir en premier des fruits de la terre. Médite bien ces images et cherche à en saisir toute la signification. D'ailleurs, le Seigneur stimulera ton intelligence et te donnera la clairvoyance nécessaire pour comprendre toutes ces choses. » Ce premier passage, on voit que Paul il commence à se dire « Il faut que je transmette des choses à Timothée. Il faut que je lui donne certaines informations pour qu'ils grandissent. » Et là-dedans, il donne plusieurs images. Il donne l'image du soldat, il donne l'image du sportif et il donne l'image du cultivateur. Et le soldat, ce qu'il donne comme image, c'est que d'une part, déjà, il ne s'embarrasse pas de ce qui pourrait finalement être trop plus lourd à porter, ce dont il n'a pas besoin finalement pour aller se battre. Le sportif, il respecte les règles du jeu. Comme le soldat d'ailleurs, c'est très... Et le cultivateur, il doit travailler dur en amont pour récolter. Et c'est lui qui jouit en premier des fruits de la terre. En tout cas, ce qui est important de voir là, donc c'est vraiment que Paul, il en est arrivé à un moment où il se dit « Ok, il faut que je transmette ce que Dieu m'a donné. Il faut que je le transmette à quelqu'un, et il va le transmettre donc à Mr. T. » Et on va passer à la suite. Deuxième passage, c'est dans Hébreux 6, versets 1 à 3. « C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. » Alors, je ne sais pas quelle version j'ai pris là. Le premier, c'était français courant. Là, j'ai peut-être pris Semeur. « Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et à la foi en Dieu. » L'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. Hébreux, donc l'auteur d'Hébreux, si vous regardez bien dans Hébreux, il parle particulièrement aux Juifs. En tout cas, il y a toutes les notions qui se rapportent aux Juifs. Donc voilà, il sait de quoi il parle et il sait à qui il parle. Là, ce qu'il explique, c'est en gros, ok, c'est bien, on a la base, cool, c'est top, c'est important. Maintenant, on va peut-être arrêter de continuer à brasser la base, là, et on va passer à l'étape supérieure. Et on va devenir des adultes, si Dieu le permet. Matthieu 4, versets 1 à 3. « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Voilà, je vous ai tout donné, on y reviendra plus tard. Ok, donc il y a un début où tu es dans la joie, la foi est décuplée, tu es chaud comme la braise, tu as envie d'apprendre des choses. Souvent, c'est à ce moment-là qu'on est les plus vaillants pour aller annoncer l'évangile dans la rue. Moi, j'ai connu plein de personnes qui m'ont mis dans l'embarras complet à ce moment-là, parce qu'ils étaient tellement tout feu, tout flamme, que des fois, ça en devenait dangereux. Mais frère, et vous l'avez sûrement vécu pour certains d'entre vous, mais tu as envie de parler de ce qui, en toi, te rend si joyeux, te donne la paix. C'est tellement génial, il faut que les autres en profitent. C'est normal. Ça, c'est le premier niveau. C'est le niveau débutant, quoi. Où la croissance est rapide, on suit une formation, il y a les formations de disciples pour ça. On apprend à prier, on grandit rapidement à ce moment-là. On grandit rapidement, normalement, on grandit rapidement. Et puis ensuite, il y a l'autre niveau, celui dont je vous ai parlé, le niveau intermédiaire. Là, on commence à comprendre les préceptes qui sont prêchés. On commence à se questionner sur ce qui nous est donné. Tu commences, par exemple, à vivre les choses sans avoir besoin de quelqu'un qui soit là pour vérifier ce que tu vis. Tu commences à les vivre toi-même dans ta chambre, par exemple, ou avec des amis que tu invites et tu leur parles de Dieu. Et tu commences à vivre avec eux, des amis qui se convertissent, des amis qui ont besoin de délivrance, de guérison. On ne sait pas. En tout cas, à ce moment-là, on joue avec beaucoup d'informations, on est ultra informé, et encore plus aujourd'hui. Moi, quand je vois, on a pas mal de personnes avec qui on a échangé, avec Annelise, qui ont à peu près notre âge, et qui, toutes les semaines, te rapportent l'enseignement de ci, de tel. Et en fait, au bout d'un moment, tu dis, ok, mais fais attention quand même. Fais attention à qui tu vas écouter, fais attention à qui tu vas voir. Parce que sur Internet, il y a de tout. Il y a de tout. Et il y en a qui sont comme le loup dans la bergerie. Ils ont l'air tout beaux. Mais si tu fais bien attention à tout ce qu'ils disent ou à la façon dont ils le disent, il y a quelque chose de tordu. Donc faisons attention aussi à nos sources. Vérifions quand on voit une vidéo. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Quand je vois une vidéo et que ça a l'air intéressant, je regarde d'abord qui est la personne. Si je vois des trucs qui ne me paraissent pas justes, je ne me prends même pas la tête, je n'écoute pas et je passe à autre chose. On en a tellement de toute façon. C'est pas grave s'il y en a un qu'on n'écoute pas, on en écoutera un autre qui sera mieux. C'est pas grave. Mais il faut mieux se protéger plutôt que devoir ensuite réparer les dégâts que ça peut faire dans nos pensées, dans notre façon de voir les choses. Donc le niveau intermédiaire, là la croissance elle est plus lente. Là des fois on s'assoit, l'image c'était ça, j'avais mis ça exprès, on aurait pu mettre quelqu'un debout qui lit, mais j'ai fait exprès de mettre quelqu'un qui s'assoit et qui lit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'informe. C'est quelqu'un qui lit la Bible, mais qui s'informe aussi, qui pose des questions, etc. Là, c'est un peu plus, en général, c'est un peu plus lent. Voire, des fois, c'est à l'arrêt. Et c'est là où je veux en venir, en fait. C'est est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie, il n'y a pas... Je ne suis pas sur une étape intermédiaire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie, je ne suis pas dans cette étape où... Je pose des questions, il y a des choses qui me posent question, je m'informe, etc. Et en général, en plus, vient avec, c'est la critique. Parce que la question soulève d'autres questions et souvent, ça peut amener à la critique. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. On appelle ça le syndrome de l'intermédiaire. C'est-à-dire que C'est la période où on remet en chose des questions parce que nous ne savons pas pourquoi nous le faisons, et cette étape peut être intéressante pour tout le monde ou négative si elle devient seulement critique et que la personne en reste là. Avant de continuer, j'aimerais juste que tu te dises, l'idée c'est pas de que tu te dises « Oh, je suis intermédiaire », non, c'est juste que tu te dises ce matin « Ok Seigneur, si j'en suis là, alors permets-moi Seigneur de grandir. Permets-moi Seigneur d'avoir une vie spirituelle différente. Je ne veux plus une vie spirituelle intermédiaire, je ne veux plus une vie professionnelle intermédiaire, je ne veux plus une vie de prière intermédiaire. » Je ne veux pas en rester à cette période de ma vie où finalement rien ne bouge. Je veux devenir un adulte dans tous les domaines de ma vie. Et souvent, cette étape, ce syndrome de l'intermédiaire, on est sur un plateau. Il ne se passe pas grand-chose. Ou alors, on a l'impression qu'il y a un plafond de verre. On aimerait aller plus haut, on aimerait aller plus loin, mais on est coincé entre le plateau et le plafond de verre. Et c'est une période qui peut être très intéressante parce que tu t'instruis, parce que tu apprends des choses, mais c'est une période qui peut être aussi dangereuse parce que finalement tu peux rester là pendant des années et en te disant oh, de toute façon pourquoi je ferais ci ou pourquoi je ferais ça, j'ai pas besoin. Dieu est un Dieu de grâce, donc peu importe, si je fais rien, de toute façon je suis sauvé. Oui, oui, t'as pas tout faux, mais t'as pas tout juste. Dieu, il nous demande aussi d'être en action, il nous demande d'avancer, il nous demande d'aller vers le but. Paul, il disait d'aller vers le but, d'aller vers Jésus, mais si tu t'assois, tu ne vas pas aller bien loin. Je dis tu, mais je me mets dedans aussi. Donc c'est, par exemple, une période où une personne sait ce qu'elle devrait faire. Je sais que je devrais arrêter de regarder mon écran tous les matins et je devrais plutôt ouvrir ma Bible. Mais elle ne le fait pas. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans notre vie comme ça où on sait pertinemment qu'il faudrait qu'on change ça ? Il faudrait qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Il faudrait qu'à l'église, on serve dans tel domaine. Il faudrait qu'on aille voir le pasteur et lui dire « Mais moi, j'ai envie de me former dans telle ou telle chose. » On sait qu'on devrait le faire, mais on ne le fait pas. Et des fois, c'est là qu'il y a des gens qui viennent, par exemple, à la fin d'un culte, et puis qui vont voir, je sais pas, l'équipe de louanges, et qui lui dit « Ah, c'est bien, mais moi, j'aurais fait ça comme ça. Ok. Ah, c'est bien, le message, mais j'aime pas trop quand t'as parlé de ça. Ah bon ? Ok. Mais toi, tu fais quoi dans l'église, au fait ? Pas grand-chose. C'est plus facile de critiquer et quand on fait quelque chose. Si on ne fait rien en plus, alors là, c'est le summum. C'est la pépite. Et c'est dans cette période-là où on peut confondre ce que l'on sait avec ce que l'on fait. Tu sais plein de choses et tu as l'impression qu'en les sachant, ça te suffit pour être un enfant merveilleux aux yeux de Dieu. Mais oui, ça peu importe. Même quand tu étais pécheur, tu es un enfant merveilleux aux yeux de Dieu. Dieu, tu es une créature merveilleuse. Simplement, il y a celui qui reste au fond de l'église à ne rien faire, ou qui peut être même devant, à se montrer, à être tout beau le dimanche, et puis qui finalement, derrière, il n'y a rien. C'est juste une façade. Là, je vous dresse un portrait, hein. Il n'y en a pas ici. Mais on peut avoir une parcelle de ces petits trucs-là et se dire, OK Seigneur, peut-être que ça me parle, je vais m'en débarrasser, je veux avancer, je veux devenir plus mature dans telle ou telle partie de ma vie, telle ou telle zone de ma vie. Un exemple, quand je vais faire du foot avec les garçons, les deux grands sont fans de foot, ils fatiguent leur mère à tous les repas à parler de hand ou de foot. Ah, j'ai fait ça comme ça, je me suis levé, ah, paf, paf. Moi, je trouve ça marrant, donc Annelise, elle n'en peut plus, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas le sujet de ce que je voulais dire. Quand je vais faire du foot, enfin, jusqu'à une certaine période, quand j'allais faire du foot avec eux, je savais ce dont j'étais capable Et en même temps, j'avais en tête tous les grands footballeurs qu'on a connus, nous les plus vieux, les plus anciens, Zinedine Zidane, etc. Donc dans ma tête, je savais ce qu'ils faisaient. Je me disais, oh, si je fais à peu près la même chose, même si c'est 100 fois moins bien, je vais quand même mettre dans le vent mes deux petits gars. Sauf que ça a tenu quelques années. Maintenant, je fais plus du tout, j'ai plus du tout le niveau. Dans ma tête, je suis super bon, je suis incroyable. En plus, je suis plus grand qu'eux, je suis plus costaud. Eh ben non, ça ne tient plus. La connaissance de ce que j'ai ne suffit plus. Il faudrait que je m'entraîne. Mais oui, j'ai pas envie. Mais il faudrait que je m'entraîne pour garder le niveau, pour être à leur niveau. Ah là, ça y est, ils m'ont perdu. Eux, là, ils sont en train d'apprendre, mais en plus, ils mettent en pratique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça où le jeune adulte, c'est intéressant, cette phase-là. C'est ce que tu apprends, mets-le en pratique. Comme ça, tu ne vas pas rester sur cette phase intermédiaire. Tout de suite, ce que tu apprends, mets-le en pratique. Et c'est ça, la parole de Dieu. Tu peux la connaître. Les musulmans, ceux qui veulent évangéliser, c'est coraniser, je ne sais pas comment on dit, les chrétiens, ils apprennent la Bible par cœur. Par contre, demande-leur ce que ça signifie, ils n'en savent rien, tel et tel passage. Des fois, ils passent complètement à côté de ce que signifie le passage. Mais par contre, ils la connaissent par cœur. Exprès, et où ils connaissent des passages par cœur, exprès, pour mettre le chrétien dans l'embarras. Nous, la différence, j'espère que c'est vrai pour chacune et chacun d'entre nous, c'est que la parole de Dieu, on la connaît, mais surtout, on la vit. Et c'est ça la grande différence. Ça, ils ne l'auront pas. Ou ils l'auront seulement s'ils se convertissent. Mais vivre les choses, c'est hyper important. Les mettre en pratique, c'est hyper important. Alors, c'est bien cette phase intermédiaire. OK, j'en ai parlé. Mais maintenant, comment aller plus loin? Comment? Alors, je vous donne des trucs. Après, il y a peut-être d'autres choses. Peu importe, en tout cas, je vous donne trois choses qui me semblaient importantes et je trouvais que l'orateur qui en parlait, il appuyait bien dessus. Déjà, consacre du temps aux fondamentaux. un entraîneur de rugby, un entraîneur de football et notre Didier Deschamps national, il parle souvent des fondamentaux. Alors, je vais arrêter de faire l'accent parce que je le fais très mal. Mais les fondamentaux, c'est important. La phase débutante, les formations de base, la conversion, c'est très important, car ce sont les fondations de ta vie, de notre vie chrétienne. Par contre, on pourra mettre plein de belles choses au-dessus. Si ces fondations-là, elles ne sont pas solides, c'est comme la maison, si elle ne la bâtit pas sur le sable. Il faut la bâtir sur du roc. Et donc, ces fondations, il faut qu'elles soient costauds. C'est pour ça aujourd'hui, s'il y en a qui ressentent qu'ils ont besoin de formation biblique ou d'autres formations un peu plus poussées, allez-y, allez voir vos pasteurs, venez nous voir. Parce que oui, il n'y a pas de problème, on mettra des choses en place. Mais c'est hyper important. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne et devenir un adulte si déjà tes fondations ne sont pas solides. Donc revenir aux fondamentaux, ça veut dire revenir à ce que sont mes fondations. Est-ce que déjà je prie? Est-ce que tu pries tous les jours? Est-ce que tu lis ta parole? Est-ce que tu lis ta parole tous les jours? On en parle sans arrêt. Et ça me parle à moi-même. Il y a des fois où je ne la lis pas, parce que soi-disant, je n'ai pas le temps. Mais en fait, qu'est-ce que je mets au centre? C'est ça la question. C'est est-ce que je mets mon travail, mon planning, mon sport, mon repas au centre et je mets tout autour? Ou est-ce que je mets un temps à part pour Dieu, et je construis mon planning autour de ce temps-là. Et vous verrez que ça change tout. On avait, quand on faisait des soirées de louange et d'adoration, on avait un trompettiste qui s'appelait Philippe, et lui, il est chef de projet, enfin directeur de projet, même maintenant, dans le bâtiment. Donc il travaille avec des grosses boîtes, et il fait des formations. Il donne des formations maintenant, donc il voyage dans la France entière. Et j'aimais bien quand il nous voyait, parce qu'il avait toujours, il nous montrait son agenda, il disait, voilà, moi je pourrais pas faire telle ou telle réunion avec vous, parce que à ce moment-là, c'est mon temps de prière. Et c'était très clair pour lui. Il avait placé ses temps de prière, c'était la base de son planning. Après, tout le reste venait autour. Si ça tombait sur son temps de prière, eh ben, c'était son temps de prière, point barre. Moi, j'ai tendance à faire l'inverse. J'ai mon planning, et puis dedans, j'essaye d'y mettre mon temps de prière. Et c'est compliqué, c'est hyper compliqué. Parce qu'il y aura toujours quelque chose. Un enfant, une information qui est tombée, qui me fait réfléchir. Et je réfléchis tellement peu dans la journée que je me dis, ouais, bah, je vais quand même prendre le temps de réfléchir à ce moment-là. Mais voilà. Où est-ce qu'on met notre priorité ? Donc, tes fondations, est-ce que tu pries ? Est-ce que tu pries ? Comment pries-tu aussi ? Est-ce que c'est différent une discussion adulte-enfant qu'une discussion adulte-adulte ? On est bien d'accord. Quand on parle à un enfant, déjà, en général, on se met un petit peu à son niveau. Alors, il y en a qui ne le font pas. Moi, j'en connais qui ne se mettent jamais au niveau de l'enfant. Ils considèrent que c'est à l'enfant de faire des efforts, ça va lui faire du bien, il va... Des fois, les conversations sont dures. Mais c'est bien que les deux fassent un effort. Ça permet à l'enfant de grandir. Mais aujourd'hui, où est-ce que tu te considères ? Est-ce que tu es dans une conversation adulte-enfant ou est-ce que tu es dans une conversation adulte-adulte ? Des fois, pour un enfant, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il a besoin d'avoir à manger, il a besoin de ci, il a besoin de ça, je veux ci, je veux ça. Et nous, on le voit dans les prières des garçons. Souvent, c'est « je te demande, Jésus, fais ci, fais ça ». Ok, mais est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un moment où ils disent « Jésus, merci parce que tu es comme ci, parce que tu es comme ça ». Et ça, c'est l'enfant. Mais c'est normal. Tous les enfants sont comme ça. Et c'est la grande différence entre la prière d'un adulte, enfant, enfin, entre un adulte et un enfant et entre un adulte et un adulte. C'est quand on est adulte-adulte, on dit « Ah, qu'est-ce que t'es beau aujourd'hui. Ah, tu t'es parfumé, c'est agréable. Ah, ça pique un peu le nez quand même, mais ça... Ah, j'aime bien tes habits, c'est nouveau ça, tiens, tu l'avais pas la semaine dernière. » Etc, etc. On commence à dire, à demander à la personne comment elle va. Jésus, Seigneur, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Est-ce que je te plais ? Est-ce que dans ma façon d'être aujourd'hui, je te plais ? C'est la différence. Donc il faut qu'on revienne sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la parole, c'est la prière. C'est prendre du temps à part avec Dieu, dans sa chambre. Même le Fils de Dieu, il avait besoin de vivre les fondamentaux. Et ça, je vais revenir à celui-ci. Non, pas celui-ci. Si, celui-ci, pardon. Hop. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, bah il eut faim. Son ventre commence à lui parler. Oh ! Il est revenu aux fondamentaux de l'être humain. Là, il savait qu'il était un être humain. Ça, bon, en même temps, c'est 40 jours et 40 nuits. Je pense que j'aurais eu faim dès le premier jour et la première nuit, mais il est meilleur que nous sur ce sujet, en tout cas que moi. Mais il eut faim. Il a besoin de revenir au fondamental. J'ai besoin de me nourrir. J'ai besoin de boire pour vivre. Même Jésus avait besoin de ça. Donc s'il en avait besoin, on en a besoin aussi. Jésus, il se mettait régulièrement à part pour prier avec son Père, tout seul. Des fois, les disciples, ils le cherchaient partout, ils ne savaient pas où il était. Mais il prenait le temps de se mettre à part. Parce qu'il en avait besoin, parce que c'était un fondamental. Ça, c'est le premier point. Consacre du temps aux fondamentaux. Deuxième point, ne sois pas seul. Ne sois pas seul, c'est la communion fraternelle. Alors, la communion fraternelle, c'est pas celle du dimanche où on se dit bonjour le matin, on discute 5 minutes. C'est assez superficiel, ou la fin, ou le communion de fin du culte. On se dit au revoir et puis et moi je suis très fort pour dire que j'ai envie de voir tout le monde et puis finalement je ne vois personne. C'est pas ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est celle des autres moments, c'est celle des groupes de maison, c'est celle où on téléphone à la personne, c'est celle où on s'invite pour aller boire un verre. On a le droit. Une bonne bière, ça fait du bien à tout le monde. C'est au bout de 3 ou 4 bonnes bières que ça commence à devenir difficile. C'est quand on invite les autres chez soi. Puis on n'est pas obligé d'inviter les personnes chez soi. Si on a peur de montrer notre intérieur, ben pas de problème. On va se promener. On passe du temps avec les autres. Ça, c'est la vraie communion fraternelle. Ce n'est pas celle du dimanche matin. Le dimanche matin, c'est la partie supérieure, c'est la petite couche supérieure, là, fraternelle. Mais ce n'est pas la communion fraternelle. Ne sois pas seul. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette communion fraternelle où tu vas rencontrer des gens qui vont te poser des questions, qui vont te remettre, qui vont te faire t'interroger sur tes croyances. C'est ces personnes-là qui vont venir se frotter à toi, là. Et des fois, ça va gratter. Des fois, ça... Ah ! Ça, j'aime pas, ça. Ah, il me remet en question sur ce truc-là. Ah oui. Ah oui, j'aime pas ça. Je réagis parce que ça me parle. Je sais que c'est vrai. Mais en même temps, j'ai pas envie de lui dire, pour l'instant, en tout cas. Ou alors, je suis plus... Ça me frotte, mais ça me gratte, mais bon, ok, j'accepte. Seigneur, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie ? C'est dans ces moments-là, c'est en n'étant pas seul, qu'on va pouvoir avoir en face de soi quelqu'un qui va nous remettre, qui va nous dire les petits trucs là. Pourquoi tu fais jamais l'arrêt sur le côté ? J'ai pas de cheveux, déjà, d'une. Mais pourquoi est-ce que tu dis toujours la même ça ? Moi, par exemple, j'ai un ami qui m'a remis en question il y a des années, avant que, enfin, deux ou trois ans avant que je rencontre Anne-Lise, parce que on faisait des camps en famille et régulièrement, j'aimais bien faire rire les enfants. Moi, j'étais l'enfant en plus. C'était pas un adulte qui gérait des enfants, j'étais l'enfant en plus à gérer. Donc, s'il y avait des bêtises. Alléluia, les enfants, je suis avec vous, on va faire la bêtise. Moi, je la cadrerai juste pour que ça ne soit pas trop catastrophique. Mais j'étais à fond, je m'éclatais, ça durait une semaine et c'était génial. Mais par contre, régulièrement aussi, je me dénigrais par rapport aux enfants. J'hésitais pas à dire, ouais, c'est vrai, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça c'est parce que je suis bête, je suis idiot, etc. Et puis un jour, j'ai le responsable, celui qui était responsable, qui vient me voir et qui me dit « Jean-Baptiste, faut qu'on parle, j'en ai marre, faut que tu peux pas continuer comme ça, je veux que tu arrêtes de dire que tu es nul, que tu es ci, que tu es ça. » Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte que c'était devenu une habitude. Donc c'était pendant cette semaine, en tout cas, c'était très fort, parce qu'effectivement, c'est pas le n'importe quoi dont je vous parle, c'était pas non plus, hein, c'était c'est juste j'aimais bien rigoler avec les enfants, etc. Mais... Effectivement, c'était quelque chose que finalement je faisais régulièrement, même en dehors de ce camp. J'hésitais pas à rigoler de moi-même, mais de manière négative. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas confiance en moi. Et ça m'a fait travailler là-dessus, et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté, j'ai plus jamais dit que j'étais nul, ou que j'étais ci, ou que j'étais ça. Mais ça a été un coup de pied aux fesses, monumental à ce moment-là. J'étais pas à l'aise, mais je l'ai accepté. Je l'ai accepté parce que je savais que c'était vrai et je savais qu'il fallait que je règle les choses. Mais par contre, lui, il m'avait dit, mis ça, hein. Voilà. Il était venu, il me l'avait plaqué au visage comme ça, pour que je le voie bien. Parce que je le voyais, mais il y avait toujours d'autres choses plus intéressantes. Et est-ce que dans nos vies, c'est pas le cas ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on doit régler ? Mais il y a tellement de choses autour, hein. On trouvera toujours quelque chose d'autre à régler. Non, c'est important dans ces cas-là d'avoir des gens autour de soi qui viennent et qui prennent le truc là et puis qui te le collent en face des yeux, qui disent, mais alors, tu l'as réglé ça ? Donc ne sois pas seul. Travaillez avec l'humain, travaillez avec les autres. L'être humain, il ne dit, des fois, il ne dit jamais merci. Vous aidez des gens et ils ne vous disent même pas merci. Alors nous, les enfants, on leur apprend à dire merci, mais des fois... Tu fais quelque chose et les gens ne te disent pas merci. Ou ils te passent devant, ils ne te disent pas pardon. Vous venez pour les sauver, pour les aider. Ils considèrent ça normal. Hein. Il y en a même qui ont crucifié Jésus. Alors qu'il était venu pour les aider, pour les sauver. Ils n'ont même pas dit merci. Mais Jésus, il a quand même tenu à être en présence des hommes et des femmes, pour aller les gratter, pour aller les frotter un petit peu là, dans leurs croyances, dans ce qu'ils étaient, dans ce qu'ils pensaient être. Tu ne peux pas aller plus loin, tu ne peux pas avancer si tu ne te frottes pas aux autres. Donc la vie chrétienne, seule dans sa chambre, c'est de temps en temps. C'est quand tu as besoin d'avoir un temps de qualité avec ton père. Tous les jours. Je dis de temps en temps, mais c'est tous les jours. Tu vas dans ta chambre, tu... Mais ça ne doit pas être ta vie. Le dimanche, c'est pour ça que le dimanche, c'est important d'aller dans une communauté. Peu importe comment elle est. Une église de maison, une église, une grande église, une petite église, une moyenne église, peu importe. En tout cas, c'est important de voir les autres. Dans Romains 12, c'est Paul qui dit « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps en sacrifice. » Ça va coûter cher, ça peut coûter cher. Mais c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'affine. Le diamant, pour le tailler, il faut le frotter. Là, c'est pareil avec nous. Et enfin, il va falloir te confronter à toi-même. Dans Matthieu 4, Jésus, il a été dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Le 40, c'est intéressant. Prenez le 40, vous avez Moïse dans le désert, quand ils ont été 40 ans dans le désert. Il y a eu 40 ans entre la résurrection de Jésus et son enlèvement. 40 ans, 40 jours. Le 40, c'est un nombre qui est lié à la foi. C'est l'épreuve qui fait grandir la foi, le nombre 40. Et il apparaît plusieurs fois dans la Bible. En tout cas, Jésus, quand il était au désert, quand il s'est confronté à lui-même, eh bien, il a été confronté aux limites de son humanité. Il a eu faim. Et à l'époque, il n'y avait pas de distributeur de canettes, de coca. Dommage, Ruben. Il a eu faim et soif. Ce n'est ni le diable, ni un ange qui a parlé en premier à Jésus, c'est son ventre. C'est vrai, des fois, on s'attend à avoir quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Et des fois, là, c'était son ventre. Ah, j'ai faim. Ah, j'ai soif. Ah, j'ai ci, j'ai ça. Il apprend, à ce moment-là, Jésus apprend à se connaître lui-même. Se confronter à soi-même, c'est apprendre à se connaître, en fait, finalement. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de redéfinir le premier point, consacrer du temps aux fondamentaux. Si tu te connais, plus tu te connais, plus tu sais ce dont tu as besoin. Plus tu sais quelles sont tes limites. Plus tu sais quels sont les aspects de ta vie où tu peux t'améliorer, où tu dois t'améliorer. Plus tu sais aussi que dans tel ou tel domaine, tu vas avoir besoin d'aide. Et allô, pasteur, j'ai besoin d'aide. Ou allô, mon grand frère spirituel, ou ma grande sœur spirituelle, ou mon père spirituel, ou ma mère spirituelle, j'ai besoin d'aide. Dans tel domaine, je ne vais pas pouvoir avancer tout seul, j'ai besoin d'aide. Se confronter à soi-même, c'est hyper important. Si tu veux aller plus loin, avant toute révélation spirituelle, sois déjà sûr d'avoir une révélation de qui tu es, quelles sont tes limites, quels sont tes besoins, quelle est ta taille de vêtements. Ce matin, vous avez mis des vêtements qui vous vont. Parce que vous connaissez votre taille. Vous n'allez pas dans un magasin en disant « Je ne sais pas, donnez-moi ce que vous voulez. » Sauf quand c'est un bon vendeur ou une bonne vendeuse qui te regarde, ils font « Oh, vous faites du... » Je ne sais pas, tu fais d'habitude du 46, elle te dit « Oh, du 42. » Ouais, oui, oui. Puis là, dans la cabine, il va falloir serrer le ventre. Et puis, parce que tu te connais. Elle ne te connaît pas. Et elle ou lui. Mais toi, tu te connais. Donc tu sais ce qu'il te faut. Ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as du temps avec toi-même? Cet instant, tu ne penses pas aux d'autres idées qui t'éloignent de ce pourquoi tu t'es mis à part. Sans personne, juste toi et toi. Des fois, c'est important. D'une, c'est important de se mettre dans sa chambre pour être seul avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu peux vivre que seul avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te parler par rapport à des choses particulières, sur toi, sur peut-être te donner des révélations, etc., sur toi ou les autres. Et puis, c'est important aussi, non pas de faire de l'introspection, etc., pendant des heures, ça ne sert à rien. tu vas te focusser sur ton nombrilé. Mais c'est important dans ce temps à part avec Dieu, d'être seul avec toi et puis de peut-être te poser la question ou te poser la question au Saint-Esprit. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses en moi où j'ai besoin? Ou Saint-Esprit, je me suis rendu compte cette semaine que je réagissais comme ça quand quelqu'un me parlait sur tel aspect, sur telle chose. Peut-être que c'est parce que j'ai quelque chose à régler dans ce domaine-là. Moi, un exemple concret, hein, mes cheveux. Pendant des années, au moment où je commençais à perdre mes cheveux, j'ai une collection de casquettes à la maison impressionnante parce que il fallait que je cache. Je souffre. Vraiment, c'était terrible pour moi. Parce que depuis tout petit, j'avais des coiffeurs qui avaient dit « Oh, toi, tu ne seras pas comme ton père, tu n'as pas la qualité de cheveux de ton père, tu vas les garder. » Et puis mon frère à côté, qui avait des cheveux tout fins, etc., lui disait « Ah, bah toi, tu vas perdre les cheveux comme ton père. » Résultat des courses, mon frère a encore des cheveux, mais moi, j'en ai plus. En tout cas, pendant des années, je cachais ma calvitie naissante avec des casquettes. Et je pense que ça a aidé en plus, hein, ça n'a pas amélioré les choses. Mais je le vivais très mal. Et puis, à un moment donné, dans ma tête, j'étais prêt. En me disant, ok, j'attends d'avoir une barbe. Dès que j'ai une barbe, je rase tout. J'ai tenté des intermédiaires. Ça ne m'allait pas du tout. Et j'étais pas bien. Parce que c'était pas ce que je voulais être. Et à ce moment-là, franchement, c'était quelque chose de physique, mais ça m'atteignait énormément. C'est quelque chose qui m'a travaillé pendant des années. Et effectivement, je suis jaloux de tous les enfants qui ont les cheveux crépus. Le fils de Frédéric, là, ton petit dernier, il a des cheveux magnifiques. Ah, je suis jaloux. Terrible, terriblement jaloux. Je rêvais depuis tout petit d'avoir des cheveux crépus, d'avoir une tignasse comme ça sur la tête. Enfin voilà, moi c'est ma grande souffrance sur Terre, c'est mes cheveux. Hein ? Ouais, ouais. Non mais c'était. Maintenant ça ne l'est plus. Mais, Et à partir du moment où je me suis laissé pousser la barbe, paf, là c'était décidé, je ne voulais plus voir une trace de mes cheveux. C'était l'inverse. Donc maintenant, dès que je vois un millimètre, c'est « Oh, ils sont trop longs, ça me vient dans les cheveux, dans les yeux, ça me gêne, hop, je rase. » Mais il y a des choses comme ça, on ne se rend pas compte, ça a un impact terrible sur nos vies. Et ça, je sais que c'est quelque chose, voilà. Je m'y suis confronté pendant longtemps. Pendant longtemps, c'était une souffrance qui gagnait sur moi. Et à un moment donné, ok, j'ai passé le pas. Et maintenant, c'est quelque chose... Bon, j'espère que là-haut, je vais avoir droit à une belle tignasse. Qu'il n'y aura pas que mon corps qui va ressusciter, mais aussi mes cheveux. Ouais, je rêve aussi d'oasis, de fontaine d'oasis. Donc, chacun son truc. Hein. On verra. Voilà. Surprise. Il faut garder un peu de suspense aussi. En tout cas, on sera ravis d'être dans sa présence. Déjà, c'est le principal. De le voir... De voir la présence de Dieu. Dieu lui-même, je ne sais pas, mais sa présence, en tout cas, oui. Enfin, voilà. Une des choses importantes lorsque nous sommes au niveau d'un intermédiaire, peut-être, c'est de commencer, comme Paul l'a fait, alors lui, c'est un adulte mature, mais c'est peut-être déjà commencer à enseigner quelqu'un d'autre, à proposer à quelqu'un d'autre de l'accompagner. C'est à ce moment-là, au moment où on devient père, on n'a plus les mêmes discussions, comment dire, avec son père, avec son propre père. C'est-à-dire qu'avant, on est fils par rapport à son père. Là, on est père nous-mêmes. Et moi, je me rends compte que mes discussions avec mon père, elles ont complètement changé. Enfin, complètement. En tout cas, j'étais là et j'ai l'impression d'être arrivé à son niveau. Je pouvais enfin parler de choses qu'il avait vécues et je pouvais enfin comprendre ce qu'il avait vécu avec moi. Et ça, je le découvre encore. Mais il y a plein de choses où je me disais, mais pourquoi il réagissait comme ça? Et aujourd'hui, je fais, ah oh, ouais, d'accord, je comprends mieux. On devait être insupportable. Mais c'est, voilà, c'est important d'enseigner quelqu'un d'autre parce qu'on va devenir nous-mêmes plus matures. On va grandir nous-mêmes. Moi, quand je fais les messages pour le dimanche matin, j'aime ça. Pourquoi ? Parce que ça me pousse à. Ça m'interroge sur certaines choses. Et finalement, je grandis en même temps que, j'espère, vous. En tout cas, moi, ça me... Voilà. S'il y a au moins une personne à qui ça parle ce matin, c'est moi. Mais c'est important. Paul le dit, faisons des disciples. Qui est cette personne que tu enseignes? À qui tu expliques les choses de la foi? Deviens un père spirituel, deviens une mère spirituelle. C'est hyper important. Communiquer aux autres, c'est grandir, c'est avancer. Oui, j'ai bientôt fini. Lorsque je fais un message par rapport à mes premiers messages, je vous l'ai déjà dit, ne tentez pas de tomber dans la tentation de l'intermédiaire. Essayez d'aller au-dessus, au-delà. Et j'avais noté deux questions, mais ça fait combien de temps que tu viens? Ça fait, quand est-ce que ce sera ton tour de donner, non simplement de recevoir? Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important et je veux vous encourager à aller dans un groupe de maison. Ce n'est pas une punition, un groupe de maison. C'est un endroit où on peut partager, où on peut apprendre à donner aux autres. Dans le groupe de maison de Marie-André, de mercredi, je sais pas exactement comment vous fonctionnez, mais je sais que nous, dès le début, c'était pour impliquer, on avait besoin, c'était pour impliquer les gens pour qu'ils viennent, c'était de se dire, chacun fait un partage, mardi soir, c'est par exemple David, et puis l'autre mardi, c'est un tel, et comme ça, tout le monde passait. Mais c'était intéressant parce que tout le monde avait un point de vue, une façon de donner les choses. Aujourd'hui, on a changé, là, on est parti sur Marc. Chacun lit un chapitre, et quand on se revoit, on lit le même chapitre, bien entendu, on a tous 5 minutes pour partager ce qu'on a reçu, les questions qu'on peut avoir avec ça. Et en fait, là, on était 5 personnes mardi soir, il y avait 5 choses complètement différentes, 5 façons de voir le chapitre différentes. Mais c'est génial, c'est hyper, hyper enrichissant. Alors, je vous encourage, allez au groupe de maison, allez vous frotter aux autres, c'est comme ça que vous grandirez. Je vais m'arrêter là parce que c'est long. C'est ça. J'avais pas ma montre, j'ai oublié ma montre. C'est la première fois. Je suis désolé, mais on va s'arrêter là. En tout cas, si j'ai une chose à vous dire, c'est va plus loin. Reste pas là où t'es. Reste pas là où t'es. La vie avec Jésus, c'est d'avancer. Amen.
Amen.
Amen. Eh bien, merci Seigneur pour ce message, je te prie que ça parle à nos cœurs, ça permette de peut-être faire bouger les choses dans nos vies, dans nos pensées, dans notre intelligence aussi, Seigneur. Permets-nous de grandir, permets-nous d'être des pères et des mères spirituelles pour d'autres, Seigneur. Permets-nous de faire des disciples, permets-nous de marcher à ta suite, Seigneur, d'être de plus en plus des Christs. De plus en plus comme toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen.